Et bonjour, bienvenue sur RDIWA 107.5 dans l'étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur. Ça va Pierrick ?
Salut, ça va Fred, et toi ?
Ça va bien, on espère que vous aussi. On est content de vous retrouver cette semaine.
On est dans un cadre bucolique au bord de la Drôme.
Tout à fait.
C'est au top.
C'est magnifique, on est bien, à la fraîche. Et donc on va démarrer cet épisode de 9. Alors au sommaire de cet épisode, nous aurons comme d'habitude le ciel ce soir. Puis une petite question qui concerne le solstice d'été, hein, qui était le 20 juin cette année. Ensuite, un point d'astronomie. Alors là, je vais démarrer une série de 3 émissions consacrées aux mesures de distance en astronomie. Comment on fait pour déterminer la distance des objets qu'on observe. Il y a différentes méthodes pour ça. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'Antiquité grecque et voir un petit peu ce que nos amis grecs avaient réussi à faire à l'époque. Voilà. Ensuite, on aura la chronique spatiale. Donc là, Pierrick, tu vas nous parler de technologie du lancement spatial.
Ouais, c'est comment fait-on pour envoyer un objet dans l'espace ? Voilà, je vais essayer de dégrossir un peu
cette question étapes.
Le fusée, comment ça marche, etc.
Ok. Et pour terminer l'émission, la rubrique à Braque, là encore Pierrick, tu nous parleras des mégalithes.
Ouais, je vais essayer de parler des monuments qui sont un peu liés à l'astronomie. En fait, c'est deux disciplines que j'aime bien, l'astronomie et l'archéologie, notamment de l'Antiquité. Du coup, voilà, j'essaye de mélanger ça.
Ok, donc ça c'est un thème de toute façon qui reviendra dans l'émission, toutes ces constructions astronomiques des peuples premiers ou bien de la fin de la préhistoire.
Et ça me fait penser que dans la prochaine émission, il y aura Amandine.
Tout à fait.
Qui viendra nous parler de...
Bah, un peu de ce genre de thématique en fait, bon, elle nous dévoilera ça quand elle viendra, mais les croyances, les mythologies des peuples premiers autour du ciel et de la création de l'univers, etc. Donc elle viendra animer la rubrique à Braque dans la prochaine émission.
Trop bien.
Voilà pour ce sommaire. Alors on va commencer tout de suite avec le ciel ce soir. Alors, là on bascule vraiment dans le ciel d'été. À partir du moment où le soleil se couche, on commence à apparaître à l'ouest le ciel de printemps, hein, avec le lion, la vierge qui vont aller se coucher. Et vont apparaître le bouvier, la couronne, Hercule, on en avait déjà parlé, sous Hercule, Ophiuchus, et puis le triangle d'été avec Vega, Deneb et Altaïr, hein, la lyre, le cygne et l'aigle. Belles constellations, 3 belles constellations, donc qui sont un peu dans la Voie lactée, hein. On peut observer que le cygne, lui, il vole dans la Voie lactée. Vous avez vraiment la croix du cygne, avec sa tête et son corps qui sont vraiment dans le prolongement de la Voie lactée, et ensuite ses deux ailes qui se déploient de part et d'autre.
Ouais, la Voie lactée, elle est belle, je trouve, on commence vraiment à apparaître en haut du ciel. J'aime bien ce moment d'été, c'est cool.
C'est un beau moment pour l'observer, ouais. Mmh. Bas sur l'horizon, on a le scorpion et plus tard le sagittaire. Alors, on va parler un petit peu des planètes qu'on peut observer dans le ciel en ce moment. Donc, c'est le grand retour de Vénus, bas sur l'horizon, dans le ciel du matin. On l'avait observé à l'automne et cet hiver le soir.
Ouais, elle était belle le soir. Ouais.
Ensuite, elle avait un peu disparu parce qu'elle était en fait, elle est passée derrière le soleil. Et là, elle est réapparue, donc maintenant.
À l'est, du coup.
Voilà, le matin très basse.
Ok.
Mars est sous. Mars est dans les poissons, en fait, sous Pégase, qu'on peut observer en fin de nuit. Et surtout, là, moi je vous engage, en tout cas à l'œil nu, à observer Jupiter. Jupiter qui est très 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 brillante, qui est juste à côté de Saturne.
Donc le soir
Jupiter et Saturne, non, c'est plutôt en ce moment à partir de minuit.
D'accord.
Ouais. Et là, en fait, vous avez ce phare qui est Jupiter entre le Sagittaire et le Capricorne. Donc le Sagittaire, c'est une belle constellation, en tout cas une très nette constellation qui ressemble un peu à une petite théière. Et vous avez ensuite le Capricorne qui, lui, en fait, on n'en voit qu'une, il n'y a qu'une partie des étoiles qui sont vraiment brillantes pour le Capricorne et qui fait une espèce de petit crochet à observer. Voilà, donc en tout cas, ces planètes Jupiter et Saturne, elles se déplacent assez lentement. sur le fond du ciel, hein, contrairement à Mars et Vénus. Donc en fait, on sait que jusqu'à la fin de l'année, on va pouvoir observer Jupiter et Saturne à cet endroit du ciel. Elles vont toutes les deux rester là, et en fin d'année, elles rentreront dans le Capricorne.
Bon, on a le temps pour les observer.
Alors, donc on a cool. Tout notre temps pour les observer. Elles sont encore basses sur l'horizon, donc c'est pas encore l'idéal, hein, on l'a dit. Plus c'est bas, plus ça turbule. L'atmosphère en fait fait trembler l'image.
Oui.
Et moins on peut grossir, moins on voit de détails. Donc c'est pas les conditions idéales, mais en tout cas l'œil nu c'est très joli.
Ok.
Voilà. Et donc on va faire un petit focus sur le Scorpion, constellation dont on a déjà parlé. Très belle constellation. Là aussi basse sur l'horizon. Constellation qu'on voit jamais vraiment en entier sous nos latitudes. Il faut descendre un peu plus vers les zones tropicales ou équatoriales pour voir vraiment sa queue. Ouais. Pour voir vraiment sa queue en fait qui revient en boucle. Nous en fait on voit les trois étoiles, les pinces avec l'œil Antares.
Ouais.
Donc ça serpente vers le bas, ça passe sous l'horizon. En fait on peut voir la boucle qui remonte, on voit le haut qui remonte,
haut de la boucle.
Mais on voit pas le bas. Donc on n'a pas toute sa forme en fait. Et donc quand on voit toute sa forme, d'un coup elle prend vraiment toute sa dimension, toute l'ampleur de son symbole, et elle est vraiment belle.
Okay.
Là aussi sur ces thématiques de peuple premier, c'est une constellation qui a été divinisée aussi très tôt. Quoi.
Par exemple, tu veux dire si on descend plus au sud en Espagne, au Maroc, plus loin encore
Moi je sais qu'au Brésil elle est divinisée, et il y a d'autres endroits en fait,
d'accord.
Toutes les cultures
ont repéré
cette constellation.
D'accord.
Et donc le Scorpion il est quand même très repérable. Antares, son étoile principale orange, est très brillante.
Oui, celle-là voit bien de chez nous.
Oui. Et alors en fait, juste à l'est d'Antares, vous avez M4, l'objet Messier numéro 4, qui en fait est un amas globulaire, qui est brillant, qui est facile à repérer. Donc vous pointez Antares au chercheur, légèrement à l'est, vous allez trouver la petite tache lumineuse de M4, et là vous pouvez grossir, c'est beau. Toujours ces formes un peu arachnoïdes, là, dont j'ai déjà parlé. On vous encourage à pointer vos télescopes, ou ne serait-ce que vos jumelles déjà, dans cette direction.
Ok.
Voilà pour le ciel en ce moment. Alors on va passer à la question de la semaine.
Ouais.
Donc question qu'on nous a posée, il se passe quoi entre le soleil, la terre et la lune pour le solstice d'été?
Alors.
Déjà la lune est hors du jeu.
Pas grand chose
non,
à voir.
Non, là mais... c'est vraiment un lien entre le soleil et la terre. Et c'est lié à la façon dont la Terre tourne autour du Soleil, et c'est lié aux saisons. Tout ça, en fait, c'est la même chose. Donc, on sait que la Terre, elle tourne autour du Soleil, c'est à peu près un cercle. On sait aussi que la Terre, elle tourne sur elle-même autour de son axe, et que cet axe, lui, il pointe toujours vers l'étoile polaire, toujours dans la même direction. Donc maintenant, vous imaginez cet axe, vous imaginez votre point, c'est le Soleil. Et vous prenez votre doigt, là, un peu incliné, ça va être l'axe de rotation de la Terre.
Il est pas perpendiculaire.
Vous le faites tourner autour du Soleil. Qu'est-ce que vous observez ? Vous observez quatre positions particulières. Une où l'axe de rotation de la Terre pointe vers le Soleil.
Oui, parce que l'axe de la Terre, il n'est pas perpendiculaire au plan auquel tourne...
Exactement. Il est légèrement incliné par rapport à cette perpendiculaire.
On est un peu tordu par rapport à l'orbite.
Oui.
En fait.
Si on ne l'était pas, si l'axe de rotation de la Terre il était vraiment perpendiculaire à son plan de rotation,
oui.
À ce moment-là, on aurait toujours et partout 12 heures de jour, 12 heures de nuit.
D'accord, oui.
Okay. Ça, vous voyez bien quoi, comment le Soleil il va éclairer la Terre. Si l'axe il est droit, à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre les hémisphères. Mais comme il n'est pas droit, vous avez quatre positions particulières. Vous en avez une où le soleil, l'axe de rotation en fait, pointe vraiment vers le soleil.
En ce moment.
C'est en ce moment, c'est le solstice d'été.
Longs,
ça veut dire que dans l'hémisphère nord,
nord,
le jour c'est le jour le plus long de l'année et la nuit la plus courte, et l'inverse dans l'hémisphère sud.
C'est là aussi où on prend beaucoup de rayons de soleil et qui. Du coup, c'est un peu pour ça que c'est l'été qui fait chaud.
C'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Donc ça veut dire que si vous prenez un mètre carré à la surface de la Terre, en fait, c'est le moment où ce mètre carré-là va recevoir le plus d'énergie. Parce que comme le soleil est haut dans le ciel, ces rayons arrivent avec l'incidence la plus verticale possible.
D'accord, oui, parce que notre axe de rotation, il est en direction un petit peu du soleil, un peu plus incliné.
Ça, c'est au moment du solstice, voilà. Au moment du solstice d'été, en fait, c'est, si on reprend cette rotation de la Terre autour du soleil, c'est le moment où cet axe il pointe vers le soleil, si on prend la direction du nord. À l'inverse, le solstice d'hiver, on est 6 mois plus tard, donc de l'autre côté de l'orbite.
Oui.
Là, l'axe, il pointe vers l'espace.
Okay.
Et là, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, inversement, l'été dans l'hémisphère sud. Et vous avez les deux positions intermédiaires où, en fait, c'est les comme si l'axe de rotation, en fait, il est, pour le coup, il est, ben, il est tangent à la trajectoire, en fait.
Ouais, d'accord, donc c'est égal.
Et donc, c'est égal. C'est 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et ce sont les équinoxes.
D'accord.
Donc, c'est le passage du printemps, 21 mars, et de l'automne, 21 septembre. Voilà. Donc, voilà pour ce qui se passe pendant les solstices. On va en reparler un petit peu des solstices dans cette émission. Voilà pour la question de la semaine. On va donc passer au point d'astronomie. Alors, cette première partie, c'est moi qui parle beaucoup. Dans la suite, ce sera toi. Donc je démarre cette série d'émissions sur les mesures de distance et on va parler de l'Antiquité grecque.
Donc là c'est les premières mesures, en tout cas connues, qu'on connaît, quoi, qui sont arrivées jusqu'à nous.
Tout à fait. Ouais. Alors les Grecs ils sont quand même beaucoup intéressés à l'astronomie, ils s'intéressaient à plein de choses. Et c'était les mêmes savants hein, qui s'intéressaient à tout. À l'époque, la connaissance n'était pas divisée. Donc, ils faisaient de la médecine, de la philosophie, de l'astronomie, de la géométrie, etc.
Ouais, ouais. La philosophie.
Et de la physique aussi, hein, la poussée d'Archimède, des choses comme ça. Enfin, voilà. Alors, les Grecs, on leur doit déjà le nom de planète. Planète, en grec, ça veut dire astre errant. Donc, les Grecs, ils avaient repéré que... la nuit, on observe le ciel, les étoiles, mais que ces étoiles ne bougent pas les unes par rapport aux autres. On a toujours les mêmes dessins dans le ciel. Après, le tout tourne, mais les étoiles sont toujours fixes les unes par rapport aux autres.
Ouais, à chaque fois, ça revient à la même chose.
Et que par contre, il y avait certains points brillants, et en l'occurrence, ils en avaient trouvé 4, qui se déplaçaient sur ce fond du ciel. Et ce sont les planètes, donc Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, les 4 planètes bien visibles à l'œil nu du système solaire, et les Grecs faisaient déjà les mêmes observations que nous, à savoir, eh ben oui, ces planètes se déplacent dans le fond du ciel.
Elles se déplacent différemment du fond du ciel.
Ouais, elles se déplacent par rapport aux étoiles. Donc ils les ont appelées planètes, et ils avaient, à l'époque, donc là on est à peu près en 400 avant Jésus-Christ, on a une croyance qui est un peu mitigée sur le fait que, une question, la Terre est-elle ronde ? Et il y a une partie des gens qui pensent que la Terre est ronde, une autre partie qui pense qu'elle est plate. Et dans les arguments, en fait, pour dire que la Terre est ronde, il y en a deux. Le premier, c'est en fait en navigation, quand vous avez un navire, par exemple, qui arrive, qui vient au port, qui rentre au port, quand on le voit arriver à l'horizon, on voit d'abord sa voile.
Oui.
Puis ensuite apparaît la coque. Et à l'inverse, quand le navire s'en va, la coque va disparaître en premier, puis la voile. Donc en fait, les Grecs ils se disent c'est parce que la Terre est ronde. Et donc en fait, on passe derrière la rotondité de la Terre et donc on masque d'abord le bas des objets.
Ok.
Voilà, donc ça c'est un premier argument qui est quand même assez convaincant. Et le deuxième en fait, ça, c'est lié aux éclipses. C'est-à-dire les Grecs avaient déjà compris le mécanisme des éclipses de Lune et de Soleil. Donc ils avaient compris que la Lune n'émettait pas de lumière, qu'elle ne faisait que renvoyer la lumière du Soleil. Et ils avaient compris en fait que quand il y avait une éclipse, eh bien, c'était que la Lune rentrait dans la zone d'ombre créée par la Terre. Hein, si vous avez le Soleil qui envoie sa lumière, la Terre, derrière la Terre, il y a une ombre.
Et, oui.
Et donc quand la Lune rentre dans cette ombre, eh bien, on ne la voit plus. Donc c'est ça une éclipse. Et ce qu'on observe en fait, c'est donc qu'est-ce qui vient manger la Lune dans le ciel ? C'est l'ombre de la Terre. Et cette ombre, elle est ronde. Donc là aussi, argument pour dire que la Terre est ronde.
Ça peut être circulaire, plate mais circulaire.
Alors non, ça marche pas. Là, il faut être, ça ferait des formes étranges si c'était plat. Parce qu'en fonction... du coup, si c'est plat, ça a quand même une épaisseur. Enfin, ça pose plein de questions.
Oui, voilà. Oui, oui.
Ça colle pas aux observations, en fait.
Okay.
Donc, le premier dont on va parler rapidement, c'est Pythagore quand même, pour le mentionner. Lui, c'est quand même un tenant... de la théorie que la Terre est ronde. C'est pas le cas de tout le monde. Mais il y a une deuxième théorie aussi qui est discutée, c'est de savoir si le Soleil est au centre du système solaire, enfin si, voilà, en gros si le Soleil tourne autour de la Terre, ou bien si c'est la Terre qui est au centre du monde et le Soleil qui tourne autour. Là aussi, les avis sont partagés. Alors, le modèle dominant, c'est quand même celui de Ptolémée. Ptolémée, à l'époque, il dit la Terre est au centre. Et il décrit en fait le mouvement des planètes sur leurs orbites par rapport à la Terre. Mais en fait, le but des Grecs, là en l'occurrence, c'est de pouvoir prédire les positions des planètes à certains moments de l'année. Donc de connaître réellement l'orbite des planètes. Or, si vous mettez le Soleil au centre, tout est simple dans les calculs. Vous avez des cercles et c'est relativement simple à décrire. Okay. Mais quand vous mettez la Terre au milieu, d'un coup, tout se complique. Et donc Ptolémée, il a construit un modèle qu'on appelle celui des épicycles, où en fait, la planète, elle tourne autour de la Terre sur un cercle, ouais. Mais en fait, en même temps qu'elle tourne autour de ce cercle, elle tourne sur un cercle plus petit qui lui-même tourne autour de la Terre, et en fait, elle tourne sur encore un cercle plus petit, donc en fait, il y a tout un tas de petits cercles imbriqués qui permettent de décrire la réalité des observations. Parce que du fait de se placer dans un repère géocentrique, c'est-à-dire avec la Terre au milieu, ben ça complique toute la description, puisque ce n'est pas le cas en fait.
D'accord, du coup il a chiadé les calculs.
Donc là, ouais, on va dire ça. Donc il a construit tout ça, et ce modèle en fait, il va dominer jusqu'au Moyen-Âge. Au moment où en fait toute cette connaissance des Grecs sur le fait que la Terre est ronde, sur les éclipses, sur. Et tout ça en fait passe aux oubliettes.
Ouais, hein, pendant un moment.
Pendant plus de 1000 ans. Ouais. Et est redécouvert à la Renaissance. Avec Copernic, etc.
La redécouverte de l'Antiquité à ce moment-là.
Et le modèle qui domine pendant toute cette période, c'est quand même celui de Ptolémée avec les épicycles et la Terre au centre. Mais il y a une partie des Grecs, et ça va être la partie la plus avancée pour l'époque, et c'est celle qui va faire les expériences les plus intéressantes, qui dit non seulement la Terre est ronde, mais en plus, le Soleil, il est au centre. Le Soleil est une grosse boule de feu et les planètes tournent autour. Et le premier qui va réellement défendre cette thèse-là et en tirer des conséquences, c'est Aristarque de Samos. Et lui, il va faire une mesure, en fait. La première mesure, c'est de trouver la taille relative entre la Terre et la Lune. Il ne sait pas quelle est la taille de la Terre, il ne sait pas quelle est la taille de la Lune, mais il va dire, je peux connaître leur taille relative. Et donc, pour ça, il réfléchit aux éclipses. Alors, je vais essayer de décrire un peu son raisonnement.
Okay.
On imagine le Soleil, on imagine la Terre, et donc, alors, la réalité, c'est que c'est un cône d'ombre, mais lui, il imagine un cylindre d'ombre, d'accord, derrière la Terre. Il sait que la phase de totalité d'une éclipse, c'est-à-dire le moment où la Lune est complètement cachée, dure à peu près 2 heures. Il a déjà observé que la Lune se déplace dans le ciel. Ça, c'est lié au fait que la Terre tourne. Hein, et elle se déplace à une certaine vitesse. Donc, si on imagine en fait, le temps qu'il lui faut pour se déplacer de sa propre taille, hein, se décaler d'une Lune, c'est 1 heure à peu près.
Ok.
Donc, on imagine la Lune qui se rapproche du cône d'ombre du cylindre d'ombre de la Terre. Oui. Elle commence à rentrer dedans. L'éclipse commence. Au moment où la Lune est entièrement rentrée, la phase de totalité commence. D'accord ?
Ok.
Et cette phase de totalité va durer 2 heures. Donc, c'est-à-dire le temps pour la Lune de se déplacer 2 fois de son diamètre.
Ok.
Puis, elle commence à ressortir.
D'accord.
On commence à la revoir. Donc ça veut dire que dans la zone d'ombre de la Terre, on peut mettre 3 diamètres lunaires.
Okay.
Et que donc le diamètre lunaire est 3 fois inférieur à celui de la Terre.
D'accord,
et c'est le cas.
Juste par déduction.
Par déduction géométrique.
Ça, okay.
Ça, c'est la première chose dont on peut parler. C'est un résultat qui est déjà notable.
Pas mal.
Et maintenant, on va aller plus loin avec Ératosthène. Alors Ératosthène, il est quand même assez connu. Pour son expérience, c'est le premier à avoir déterminé le rayon de la Terre. Alors, ça mérite quand même d'être un petit peu détaillé. Donc, notre ami Ératosthène, tout démarre avec une observation. Il observe que le jour du solstice d'été, alors on en reparle hein, de ce solstice, ça c'est un jour, et tu vas en parler toi aussi dans les mégalithes, jour qu'on a déterminé depuis des millénaires. Les hommes, ils ont repéré depuis longtemps qu'il y avait quand même les solstices et les équinoxes et que ça marquait l'année, le déroulement de l'année. Quoi. Il y avait un cycle là.
Ben oui, ça recommençait.
Évidemment, c'était le cycle des saisons, c'était aussi le cycle des cultures, hein, c'était les calendriers agricoles. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, le jour du solstice, donc ce jour, ça c'est pour dire qu'il sait très bien quand c'est, et ben, il a remarqué que le soleil éclairait le fond d'un puits à Sienne. Sienne, c'est Assouan en Égypte. Donc, ça veut dire que le soleil est à la verticale.
Donc, Assouan, ouais, c'est proche de l'équateur de la Terre. Ça, hein.
Oui.
Sort du milieu, quoi.
Ouais. Donc, il repère que ce jour-là, le soleil est à la verticale du lieu. Ok. Et ensuite, il repère que le même jour, donc imagine, c'est sûr qu'il ne fait pas cette observation la même année, ou alors c'est deux personnes différentes, mais il observe qu'à Alexandrie, donc là on est au nord de l'Égypte, au bord de la Méditerranée, et bien là il y a une obélisque sur la place, et donc il remarque que le même jour, cette obélisque a une ombre. Or, si le soleil était à la verticale, il n'y aurait pas d'ombre.
Et oui.
Donc il n'est pas à la verticale. Il sait que la Terre est ronde. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Et bien en fait, il mesure l'angle. En fait, il fait un triangle entre la taille de l'ombre, la taille de l'obélisque.
Ah oui, ok. Ouais.
Et donc ça va lui donner en fait l'angle du soleil, d'accord.
L'angle, ouais, d'accord.
Et donc en fait là, c'est un jeu de géométrie. Si on fait un dessin, on prend le centre de la Terre. On imagine un cercle autour, qui est la surface de la Terre. Et ben vous avez deux villes qui sont sur ce cercle, qui vont être Sienne et Alexandrie.
Ouais.
Et vous avez l'angle, en fait, l'angle que lui va mesurer là dans son triangle avec son ombre et l'obélisque.
C'est
en fait,
ce même angle qui va
au centre,
voilà,
va au centre de la Terre. Or, c'est un Grec qui connaît la géométrie. Il lui manque la distance entre les deux villes. Or, il la mesure. Donc là, c'est amusant. Il la mesure avec des chameaux. C'est-à-dire que les chameaux vont toujours à la même vitesse. On n'est pas très régulier dans le désert. Donc, si on connaît le nombre de jours que met une caravane pour rallier Sienne et Alexandrie, et ben on peut connaître la distance. Donc il a tout, il a l'angle, il a la distance entre les deux villes, c'est-à-dire la dimension de l'arc de cercle en fait qui correspond à cet angle.
Okay.
Donc là il a plus qu'une règle de trois à faire pour trouver la circonférence du cercle, le rayon et tout ce qu'il veut.
Wow.
Et donc il trouve la taille de la Terre, 6400 km, il tombe juste, c'est ça. Évidemment depuis on l'a déterminé avec une plus grande précision, mais je veux dire là on part de rien à je trouve la taille de la planète sur laquelle je vis.
Ouais, c'est énorme, hein, c'est énorme.
Donc
définir
c'est énorme.
L'endroit où on vit comme ça. Ouais.
C'est quand même une belle expérience. Bon, il y a plein de marges d'erreur en fait dans son calcul, mais
oui,
en fait elle se compense plus ou moins.
La Terre c'est pas vraiment une sphère, mais une espèce de patatoïde.
Ouais.
Bon, voilà.
Mais
il y a
bon,
des reliefs, etc.
C'est
mais...
quand même grosso modo une boule, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et il trouve la taille de cette boule. Donc, ce qui est, donc ça, c'est déjà, en tant que tel, je trouve, vraiment intéressant. Moi, franchement, je suis admiratif.
Ouais, c'est fin comme observation sur plusieurs années, des déductions
ouais.
subtiles que nous, ils nous paraissent dérisoires, mais que eux ont su déchiffrer.
Puis je trouve aussi, il y a une forme d'audace intellectuelle, enfin, un côté de dire, eh ben moi, je vais vous trouver la taille de la Terre et de le faire. Et oui, ça marche.
Ouais, c'est balèze.
C'est fort quand même.
C'est vrai que c'est balèze.
Bon. Donc Ératosthène qui fait ça, et bien de là en fait, ensuite une fois qu'on a cette distance, une fois qu'on a cette taille de la Terre, bah du coup on connaît la taille de la Lune.
Ah oui, par
parce qu'on sait que c'est un tiers.
Là,
oui. Grâce à Aristarque de Samos, on sait que c'est un tiers, donc on trouve la taille de la Lune. Et puis par en fait toute la géométrie que les Grecs y maîtrisaient, donc géométrie principalement du triangle et du cercle, donc la mesure des angles, la mesure des distances, toute la trigonométrie, en fait, et bien ils peuvent déduire des choses. Et en particulier, ils vont déduire la distance entre la Terre et la Lune. Parce que, à partir du moment où je connais la taille réelle de la Lune, eh ben, si je sais, un objet, on est d'accord, plus il est loin, plus on le voit petit. Donc si je mesure le diamètre apparent d'un objet dont je connais la taille réelle,
ouais.
eh ben, j'en déduis la distance.
Et oui, par ce jeu de triangle.
Soit je connais sa distance et je peux en déterminer sa taille, mais là, soit l'inverse, mais on peut pas déterminer les deux, mais on peut trouver un des deux quoi. Et là en l'occurrence on trouve sa taille, on en déduit la distance, donc on connaît la distance entre la Terre et la Lune,
c'est déjà pas mal,
autour de 300 000 km.
Ok.
Et de là aussi une autre mesure que les Grecs, donc hein, je rappelle il y a 2500 ans en fait, la distance entre la Terre et le Soleil. Et là aussi petit raisonnement simple en apparence, mais ils se sont dit voilà, au moment de la demi-lune, qu'est-ce qui se passe au moment de la demi-lune? Si on essaye de voir les positions respectives de la Terre, du Soleil et de la Lune.
Alors le Soleil au centre.
Soleil au centre, la Terre sur son orbite, voilà, hein, donc à une certaine position, et la Lune. Si on observe la demi-lune, ça veut dire qu'en fait il y a un angle droit entre la Terre et la Lune et le Soleil. Et donc effectivement, le Soleil va illuminer donc une face de la Lune. Nous, on n'en voit que la moitié parce qu'on est de côté.
Et oui,
on est à 90 degrés.
On est perpendiculaire à ça.
Donc si au moment de la demi-lune, je mesure l'angle entre la Lune et le Soleil dans le ciel, j'ai un angle. Donc j'ai deux angles. J'ai celui que j'ai mesuré, j'ai un angle à 90 degrés. Okay. Et je connais la distance entre la Terre et la Lune. Et
oui.
Donc j'ai tout mon triangle et j'en déduis la distance entre la Terre et le Soleil.
Énorme.
150 millions de kilomètres.
Ils sont trop forts les mecs.
Donc voilà des gens, hein, on nous parle de Copernic, etc. Donc 1500, machin. Là on est en moins 400, moins 300. Voilà des gens qui ont compris que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil. Le Soleil était au centre du système solaire. Ils ont compris les saisons, ils ont compris les éclipses et ils ont déterminé la taille de la Terre, la taille de la Lune, la distance entre la Terre et la Lune, la distance entre la Terre et le Soleil. Voilà où on en est à la fin de l'Antiquité grecque.
Il a fallu attendre presque 1500 pour refaire surgir tout ça, c'est quand même fou.
Bon voilà, j'espère vous avoir pas trop perdu avec de la géométrie. C'est difficile à la radio d'expliquer des choses qui, avec un schéma, seraient peut-être plus simple à comprendre. Mais voilà, je pense que ça vous donne déjà une idée. Sinon, peut-être reportez-vous et réécoutez l'émission sur le podcast en observant un schéma que vous pouvez trouver soit sur Internet, soit sur une encyclopédie. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve après. Et bon retour dans l'étoile polaire sur RDWA 107.5. C'était un morceau de Wishbone Ash de l'album Argus. Voilà, alors Pierrick, là ça va être à ton tour.
Ouais,
donc on part dans la rubrique spatiale.
Et chronique spatiale.
La chronique spatiale, pardon.
S'il te plaît.
Excuse-moi, on est plus plates d'excuses. Nous t'écoutons.
Alors, je voulais faire un petit topo sur comment fait-on pour envoyer un objet dans l'espace. Puisque finalement, on parle de satellites, de sondes spatiales, etc. Mais concrètement, comment on fait, comment ça se passe.
Ouais.
Donc voilà, je voulais un peu détailler tout ça. Donc là, bien sûr, on va parler des fusées, mais aussi des lanceurs. On appelle ça un lanceur, hein, quelque chose pour propulser quelque chose dans l'espace. Quoi. Et avant ça, on va faire un petit retour en arrière. Et donc les fusées, elles ont été théorisées par le russe Konstantin Tsiolkovsky, donc fin 19e. Puis en 1935, elles ont été mises en pratique par des Allemands surtout. Et malheureusement, mais c'est comme ça, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que les fusées, notamment les V2, les premiers missiles premiers missiles balistiques, quoi, qui
ouais,
très
c'est
loin,
ça.
Ont été développés. Voilà.
Oui, la naissance du spatial, c'est les missiles à la fin de la guerre.
Ouais, ouais. C'est les missiles V2 développés par.
Enfin, la naissance des fusées, ouais, c'est vrai.
Donc, avant, je vais quand même parler de Konstantin Tsiolkovsky, là, ce russe, parce que c'était un peu un précurseur. Quand j'ai lu son parcours, c'était assez rigolo. Donc, c'est le premier, par exemple, qui a pensé à l'ascenseur spatial. Donc,
ah ouais.
Imaginez un espèce de grand tube énorme qui monte dans l'espace pour.
En général, pour aller pour aller à la Lune.
Pour aller à la Lune ou pour sortir de. Ouais, pour.
Mais ça, c'est encore en débat.
Mais oui, parce que j'en entends souvent parler.
Oui,
du coup.
Ça fait des années que ça dure, mais pour l'instant, c'est pas fait. Mais il y a toujours cette idée de l'ascenseur spatial. Un jour ou l'autre, ils vont le faire. Il y a des projets.
Ouais, c'est une histoire de coût, de lancement. Enfin, voilà, du coup, c'était lui, au fin 19e, qui a pensé à ça. Je trouvais ça cool. Il a pensé à l'avion métallique avec des formes aérodynamiques avancées. Donc ça aussi, c'est quand même balèze à penser ça. C'est le premier qui a créé une soufflerie en Russie. Donc une soufflerie, c'est il étudiait l'aérodynamisme, l'air qui passe sur les pièces d'avion.
Bah c'est de la mécanique des fluides. Quoi.
Ouais, voilà.
Comment, l'étude de l'air en tant que gaz, en tant que fluide, quand il circule autour de formes plus ou moins différentes. Donc l'aile d'avion, le concept de l'aile d'avion.
Notamment. Après, il a réfléchi à beaucoup de choses, mais notamment à la colonisation de l'espace, à l'exploitation des mines sur la ceinture d'astéroïdes, donc exploiter des minerais là-bas
ça
dans
aussi,
l'espace.
Hein, ça aussi, on en parle.
Mais ça c'est carrément.
Ouais, on en parle là. On n'y est pas encore, mais dans 30 ans, on y sera peut-être.
Ouais. Il commence à mettre même des cadres légaux à ça, enfin, il y a des trucs de fou. Il a pensé aux premières stations orbitales, il a étudié les principes de propulsion à réaction.
Ouais, un sacré visionnaire quand
même. Ouais, quand même, il envoie du lourd le mec.
Fin 19e, tu dis ?
Ouais. Et il a aussi sa principale thèse qui m'a intéressé aussi, c'est le panpsychisme, je sais pas trop, mais. En tout cas, c'est l'idée que la vie ou l'esprit existe partout dans la matière, sous une forme ou sous une autre. Et je trouve ça beau comme chose.
On n'est pas très loin de l'idée. En spiritualité de Dieu en fait. Hein.
Enfin, et oui, on s'en approche quand on parle.
C'est une autre
dans
approche, mais c'est ça. Enfin, y a des gens qui ont ce type de discours, mais en venant d'un monde spirituel.
Moi, je trouve ça beau, en tout cas, ça me plaît. Que chaque chose est vivante, à respecter.
Ouais.
Et il a une citation aussi que j'aime bien, c'est « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau.
»
Voilà. Donc, c'est un grand visionnaire qui avait envie de rêver.
En voyage.
Ouais. Et donc, voilà, c'est un peu grâce à lui, en partie, hein, si on est là. Parce qu'après, les fusées, il y a tout un truc sur les armes encore, les armes de guerre, les boulets de canon qui étaient expulsés avec de la poudre, les premières petites fusées.
Mais l'autre jour, j'écoutais un conte, là, c'est Jules Verne de La Terre à la Lune.
Ouais.
Ils envoient donc des gens sur la Lune, c'est un obus. Enfin, ils construisent un immense canon et ils mettent des gens dans l'obus et ils les envoient.
Ok.
C'est ça le livre.
Peut-être, hein. Ça va se faire.
Pas sûr. Et en donc, tout cas, le lien entre les armes et l'idée de l'espace, il était déjà présent avant même qu'on le fasse. Quoi.
Oui, bien sûr, il y avait même les Chinois qui ont fait les feux d'artifice dans le ciel, oui. Tu vois, et voilà, ils avaient cette idée de poudre pour
exemple. Ça, c'est pas l'espace encore.
Mais c'est pas l'espace, mais on
s'envole. L'idée d'envoyer des trucs dans le ciel.
Ouais. C'est vrai. Ça vient de là quand même. Mm. Donc comment ça marche? Comment on fait pour aller dans l'espace? Donc c'est le principe d'action réciproque. En fait, un moteur de fusée, comment ça marche? Eh bien, c'est ça. C'est, on accélère en éjectant derrière, à l'arrière, de la matière, par exemple à l'aide d'un moteur fusée. Et l'énergie dégagée par la combustion d'un comburant et d'un carburant, ça s'appelle des ergols, ça, eh bien, ça s'éjecte dans une tuyère et là, en fait, ça pousse.
Ouais.
Ça, c'est tout simplement ce principe-là de pousser.
Principe d'action de réaction, si on éjecte quelque chose, en fait, ça génère une force opposée à l'éjection pour le système qui a éjecté. Ouais.
Voilà, et donc c'est un carburant et un comburant qui, mélangés ensemble, prennent feu. Alors ça peut être kérosène, oxygène, hydrogène, oxygène, méthane, oxygène, enfin il y a plein de trucs. Mm-hmm. Ça s'appelle des ergols. Donc dans un moteur fusée, il y a deux parties qui sont importantes, c'est la chambre de combustion, donc c'est là où sont brûlés les ergols, et la tuyère qui est aussi très importante parce que les ergols expulsés, ils sont expulsés par un orifice assez étroit, en fait, et toute cette dimension de tuyère fait que ça va donner encore plus de puissance à la poussée.
Ouais, donc ça c'est encore de l'aérodynamisme, des choses comme ça, pour optimiser le plus possible le rendement des moteurs.
Voilà,
c'est enfin, ça. L'effet des moteurs, ouais. Mmh.
C'est l'énergie thermique de la combustion qui est transformée en énergie cinétique, une poussée quoi, pour le coup. Voilà, alors après on a différents moteurs sur cette même technologie. Hein. On a les moteurs fusées à propergol solide, donc ça c'est un peu les moteurs à poudre. Donc c'est beaucoup plus rustique, c'est beaucoup moins performant, mais plus simple à mettre en œuvre et à fabriquer. Souvent, okay. Les fusées, elles ont ça, tu sais, elles ont deux, on appelle ça des boosters.
Ouais.
Elles ont deux. Au démarrage, elles ont ça, et après, elles les éjectent pour passer aux ergols liquides. Mmh. Je pense que c'est moins cher aussi à produire, etc. Donc, quand on envoie une fusée, souvent, voilà, elles ont plusieurs étages pour alléger à chaque fois les propulsions. Parce qu'on ne sait pas faire un énorme réservoir qui prendrait tout d'un coup, ça, sur plusieurs étages qui se séparent à chaque fois pour aller dans l'espace. Donc comment ça se passe un lancement? Donc il faut donc un lanceur, une fusée capable d'atteindre une vitesse de au minimum 8 km/s.
Ouais.
Ça c'est grand minimum juste pour sortir de l'atmosphère et atteindre les couches d'espace au-dessus de nous. Et donc ces couches pour sortir de l'atmosphère terrestre, c'est à peu près à 200 km
ouais.
Au-dessus de nous. Mmh. Là on est dans l'espace à peu près. Et ça, c'est différent de la vitesse de libération. Parce qu'on va aller à 8 km/s, on va pouvoir aller dans l'espace, mais on ne va pas encore se libérer de l'attraction terrestre. Ça, la vitesse de libération, par exemple, pour la Terre, c'est 11,2 km/s.
Ouais. Donc, c'est la vitesse qui est nécessaire pour s'extraire du champ gravitationnel d'un objet.
Voilà.
Donc, en fonction de l'objet, ça a différentes valeurs. Donc, pour la
Exactement.
Terre, c'est ça.
Par exemple, pour la Lune, c'est 2,4 km/s.
Eh oui, la Terre, la Lune étant beaucoup moins massive, elle a un champ gravitationnel qui est plus faible, donc c'est plus facile de s'en extraire.
Le Soleil, c'est 617 km/s pour s'extraire. Et j'ai pris un autre chiffre qui me fait rire, c'est si on voulait sortir de la Voie lactée, en théorie, on pense qu'il faudrait aller à 1000 km/s.
Ok.
Donc voilà, par exemple, cette vitesse de libération, on l'utilise pour aller visiter d'autres planètes. Quand on va plus loin qu'une orbite terrestre. Voilà. Donc ça, cette vitesse, elle veut dire aussi qu'il faut plus d'énergie, des plus grosses fusées pour aller de plus en plus loin.
Ouais.
Voilà. Alors après, il y a le site de décollage qui est important. Donc plus on est à l'équateur, plus la Terre tourne vite
en fait. Ouais.
Puisque au pôle, par exemple, on tourne sur nous-mêmes et du coup c'est faible, alors qu'aux équateurs, on tourne très vite. Et si on envoie la fusée vers l'est, eh ben on va gagner cette énergie-là.
Oui.
Elle va être...
Oui, mais c'est pour ça qu'on a une base, que la France avait, l'Europe a une base en Guyane.
Voilà.
Que c'est proche de l'équateur.
Et généralement, les sites de lancement, ils sont proches de l'équateur. Sauf les Russes qui sont
à Baïkonour,
ils n'ont pas trop le choix.
Ils n'ont pas le choix.
En tout cas, ça tourne à 465 mètres secondes.
Ben, on avait parlé de ça déjà. On va plus vite que le son en fait.
Ouais.
Mais sauf qu'on s'en rend pas compte.
Non. Et du coup, voilà, cette vitesse de rotation de la Terre aide les fusées à partir, donc c'est des économies d'énergie, etc. Et voilà, utilise moins de temps. Ok. Alors après, le décollage. Alors il se fait vertical pendant 10 à 20 secondes. Pour en fait. Parce qu'il décolle verticalement pour éviter que si jamais il y a un problème, ça tombe pas n'importe où. Tu vois, ça se dégage bien droit et après ça part en. Un peu en courbe, jusqu'à traverser l'atmosphère et se mettre sur une orbite parallèle à la Terre. Soit ça part droit, puis ça courbe.
Tangente à la Terre.
Ouais, tangente. Enfin,
oui, non, mais d'accord. En orbite autour de la Terre.
En orbite, quoi. Voilà.
Ça courbe, oui, on vient approcher un cercle en courbant.
Voilà. Voilà.
Oui, ouais. Bah oui.
Donc il faut savoir que ça, un décollage, c'est entre 20 et 30 secondes de partir du sol. À 200 km là dans l'espace, c'est très rapide quoi. C'est quelques secondes. Donc après il y a la mise en orbite. Une fois que tu es dans l'espace, il faut être sur une orbite. Donc selon le type de mission, et selon la charge utile aussi, soit ça met directement sur une orbite qui est définitive. Donc là il faut encore une petite poussée pour atteindre une certaine orbite voulue. Ça c'est à définir en fonction du satellite, j'en parle un petit peu après. Soit la vitesse de stabilisation n'est pas atteinte, parce qu'une fois que tu sors il faut encore mettre un petit coup pour stabiliser l'orbite, sinon en fait tu retombes. Ça c'est ce qu'on appelle un vol balistique, on entend souvent ça, et c'est ça en fait, c'est quand tu arrives dans l'espace mais que tu n'as pas assez de puissance, pouf, tu retombes. Donc, je tourne ma page. Ah oui. Ça m'a fait rire aussi. Donc, j'ai lu un truc, c'est la trajectoire est calculée de manière qu'après la séparation des étages, les fusées qui sont séparées de la fusée principale retombent dans des zones inhabitées.
Ouais.
Et bon, ça paraît logique. Donc ces règles ne sont pas toujours respectées en Russie et en Chine.
Ouais.
Voilà, bon, ça me fait rire, c'est tout. Donc après, quand on arrive en orbite, quand tout va bien, donc il y a l'orbite basse, donc ça c'est entre 200 et 2000 km au-dessus de nous, au-dessus du niveau des mers qui est zéro donc. Ouais. L'orbite moyenne c'est de 2000 à 36 000 km, et après on appelle ça orbite haute.
Mais 36 000 km c'est ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire.
C'est ça, voilà. C'est là où on suit la Terre, on tourne en même temps qu'elle et du coup on est sur un point fixe par rapport à la Terre.
Toujours à la verticale du même lieu.
Voilà.
Donc ça c'est intéressant pour surveiller une zone.
Donc ça c'est à 36 000 km. Mais tu vois par exemple Sputnik 1, le premier satellite là, ça a été à 215 km. Il a fait un tour de la Terre et il est retombé. Donc, c'était vraiment l'orbite minimum. L'ISS, la Station Spatiale Internationale, elle est à 340 km au-dessus de nous. Hubble, le grand télescope de la NASA là, il est à 600 km. Voilà, pour donner des idées un peu... En fait, il peut y avoir beaucoup de monde qui se déplace. On en parlait aussi de ça, qu'il y avait de plus en plus de monde en orbite autour de nous. Mais en fait, sur entre 200 km et 36 000 km,
ça n'a rien à voir.
Tu vois, il y a quand même de la place.
Il y a de la place, mais il y a des orbites qui sont meilleures que d'autres pour toutes sortes de raisons.
C'est là qu'elle commence à saturer.
Voilà. Ouais. Dont l'orbite géostationnaire et d'autres.
Donc après, il y a d'autres orbites intéressantes, notamment les points de Lagrange. De ce que j'ai compris, c'est que c'est l'orbite d'équilibre entre deux astres. C'est-à-dire que l'orbite.
C'est le point où le point de Lagrange entre la Terre et le Soleil, c'est le point où en fait l'attraction du Soleil est équivalente à l'attraction de la Terre.
Voilà, donc là ça s'annule un peu et zone stable un peu.
Voilà. On n'a pas à lutter. Donc elle s'annule en fait.
Voilà. Donc ça c'est aussi
des points stables.
Voilà, c'est aussi des orbites intéressantes. Alors il faut toujours quand même une mise en orbite, il faut toujours la relancer souvent parce que ça a tendance à tomber petit à petit. Donc il faut toujours remettre par exemple la Station Spatiale Internationale, elle est toujours remontée à des moments pour remettre sur une orbite stable. Sinon elle tombe, donc ça on veut pas. Donc par rapport aussi aux fusées, donc la plus grosse fusée jamais construite, c'est la fusée Saturne V. Donc c'est la fusée mythique qui a envoyé des hommes sur la Lune. C'est le plus gros fusée jamais construit. Elle peut envoyer 118 tonnes en orbite basse, 47 tonnes en orbite géostationnaire, et elle peut aller jusqu'à la Lune avec je sais pas combien de tonnes, mais quelques tonnes quand même. Donc ça, c'est la plus grosse fusée jamais construite. Et après, tu vois, je me posais la question de l'impact que ça pouvait avoir, l'impact environnemental que ça pouvait avoir, tous ces lancements de fusées. Alors j'ai fait 2-3 recherches et au final, il s'avère que c'est assez faible encore, bien que ça se développe à fond en ce moment, avec tout le secteur privé qui s'y met. Et que apparemment l'impact est assez faible. Par exemple, à Kourou, en Guyane, le site de lancement des fusées aériennes, et ben toute la zone autour, c'est une immense zone, c'est comme un parc naturel en fait, ils font rien. Et apparemment la végétation et les animaux, tout ça, ne sont pas trop impactés par ça. Bien qu'il y a plein de saloperies qui retombent.
Non, mais c'est sûr qu'il y a des déchets, etc. Après, je pense pas que ce soit l'industrie la plus polluante du monde.
Non, ben loin de là.
En tout cas pour la Terre.
Ouais,
c'est... Après, la pollution, elle existe, mais elle existe aussi de façon induite. C'est-à-dire que tout ce spatial, il utilise des technologies de pointe
qui
sont, elles, quand même, écologiquement assez impactantes. Quoi. En particulier, tout ce qui est métaux rares, etc., tout ce qui est électronique, informatique, on sait que ça consomme énormément de métaux rares, en fait.
Mais tu vois, comparé à la bagnole ou à l'aviation, c'est que dalle, en fait.
Ben oui, par contre, là, la spécificité, et on en a déjà parlé, c'est la pollution, en fait, des orbites, quoi, autour. Parce que là, effectivement, on a une multiplication des débris, de tout un tas de choses, et des satellites eux-mêmes. Ça, c'est un thème qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, mais là, pour moi, la vraie pollution du spatial, elle est là.
Ouais, c'est pas forcément. Et puis quand ça décolle, les fumées sont diffuses, du coup, sont diffusées dans l'atmosphère, du coup, bon, c'est réparti, on va dire.
Ok.
Voilà.
Bon, bah écoute, merci Pierrick pour cette chronique spatiale.
Plaisir.
On va continuer avec la rubrique Abrac. Et là, commencer à aborder un thème qui reviendra dans le futur des émissions dans l'étoile polaire. C'est un thème qui nous intéresse et sur lequel on pense qu'il y a pas mal de choses à dire, et c'est les mégalithes.
Ouais, alors les mégalithes, c'est quoi? C'est grosses constructions. En fait, un mégalithe, c'est une grosse construction monumentale et souvent liée à un sanctuaire ou quelque chose d'un peu spirituel, ou voilà, qui a quand même une connotation particulière. Et aussi, c'est que c'est fait sans mortier ou ciment. C'est-à-dire que c'est érigé pierre sur pierre. Ouais. C'est toute de la pierre taillée. Et c'est quand même souvent, c'est des trucs balèzes. Et donc ça vient, alors à peu près, ça c'est vague, mais c'est à peu près dans le néolithique, en gros de moins 10 000 à moins 3 000 avant Jésus-Christ. Alors, on va dire.
Et c'est début basse. De la sédentarisation.
Début des civilisations. Donc on parle de quoi? On parle de menhirs, de dolmens, de temples, de pyramides, de choses comme ça. Donc il y en a des super connus, genre Stonehenge en Angleterre, une espèce d'alignement circulaire de menhirs de pierre. Il y a Abu Simbel aussi en Égypte, on peut parler un peu de ça. Il y a quelque chose que j'adore, c'est l'alignement de Karnak.
Ouais.
Je sais pas si vous connaissez ça, mais cet alignement de menhirs à Karnak en Bretagne, il est magique.
Ouais.
Je trouve ça absolument magique. Il y a les pyramides d'Égypte, bien sûr. Dans le délire un peu bizarre, il y a les géoglyphes de Nazca, les lignes de Nazca.
Ouais.
Ces espèces de formes qu'on voit que d'avions et.
C'est des dessins dans le sol.
Des dessins d'animaux.
Sur des centaines de mètres ou des kilomètres parfois.
Ouais, apparemment qu'on voit que d'avions.
Et il faut prendre de la hauteur pour voir le dessin. Ouais.
Ça aussi, c'est inexpliqué et quand même assez balèze d'avoir fait ça. Et en fait, on en trouve un peu de partout de ces mégalithes. Ça va de la Suède, en Espagne, en Sardaigne, en Turquie, en Tunisie, en Inde, en Indonésie. Enfin. En Afrique, en Éthiopie, même en Amérique, on en trouve. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et donc ça m'amène à l'archéo-astronomie.
Ah,
t'as
qu'est-ce que c'est que ça?
Alors ça va encore, c'est pas trop foufou. C'est combiner l'astronomie et l'archéologie.
Ok.
C'est-à-dire expliquer des choses qu'ils ont construites ou qu'ils ont faites par des grands événements célestes. Par exemple, S'il y a une, tu vois les supernovas, ouais. Ces étoiles qui explosent.
Oui.
Alors nous, on n'a pas vu encore de notre, dans notre génération, on va dire, mais il y a 1000 ans, ou, enfin, visuellement.
Si, des supernovas, on
va ouais, mais visuellement, comme ça, dans le ciel.
Si, si, il y en a de temps en temps.
Bah.
Non. Mais la dernière, c'est celle du crabe, là, 1054, là, les Chinois.
C'est ouais, ça voilà, c'est quand même des trucs qui sont là.
Oui, oui, oui.
Pas souvent.
Non, non, non.
Et généralement, c'est un truc qui brille dans le ciel plus. Enfin, d'un coup, il y a oui. Un astre qui se met à briller fort.
Ouais, ouais. Et très, donc, très fort, même.
Ouais, ouais, il paraît que c'est assez impressionnant. Ouais.
Non, les super, effectivement, les supernovas qu'on observe, je pense qu'elles sont. Les astrophysiciens, ils en observent.
Oui, mais
avec
dans,
leur télescope, voilà, sur des trucs qui sont pas visibles à l'œil.
Ouais.
Mais effectivement, la nébuleuse du crabe. Enfin, ce qui a. La supernova qui a donné naissance à la nébuleuse du crabe, dont on avait déjà parlé, elle est mentionnée, il me semble, par les Chinois.
Oui, voilà. Ouais, et même les Égyptiens, ils mentionnent des supernovas. Mm. Dont maintenant on observe les vestiges en fait,
ouais.
Mais on peut dire à peu près quand elles ont explosé, donc oui. Toi, on peut vérifier certains trucs par rapport à ça, c'est ça l'archéoastronomie.
Okay.
Et les éclipses, ça c'est pareil, on sait à
quelle période. Donc c'est pas l'étude de savoir ce que savaient ces peuples de l'astronomie, c'est retrouver des liens entre certains événements astronomiques qu'on peut dater précisément et ces cultures-là ou c'est
quoi? Bah, c'est un peu
c'est
les deux.
Un peu les deux,
c'est,
ouais.
C'est okay. Tout ce qui est lié à ça, ouais. Les comètes aussi, tu vois,
ouais.
Les cycles qu'elles reviennent.
Ouais.
Donc des fois, on trouve des traces, ils font des schémas d'un truc dans le ciel, et ben, si on arrive à dater, on sait que c'est la comète, et du coup, ça vérifie la date et tout ça. Par exemple, toi, il y a la fameuse étoile des rois mages qui annonçait la venue de, la venue de Jésus-Christ. Bah ça, on n'a jamais pu le vérifier. Par contre, tout à l'heure, on parlait des Grecs. Et Thalès, par exemple, il a noté une éclipse de soleil. Et ça, c'est OK, ça correspond au calendrier, c'est vérifié. Donc voilà, on peut vérifier certaines choses de cette manière-là, en mêlant archéologie et astronomie.
OK.
Donc ces mégalithes. Voilà, on pense hein, parce que souvent que c'est des observatoires, c'est des monuments à vocation astronomique, quoi. Donc, ils sont là pour faire des calendriers, en gros, un calendrier précis avec les solstices, les équinoxes.
Mais c'est surtout, oui, c'est par exemple Stonehenge, en tout cas, beaucoup de monuments, ils servaient à ça, à faire des points de visée ou de dire, voilà, au moment du solstice, le soleil il va être à telle position dans le ciel, donc ça va faire un alignement avec telle ménière et telle ménière, et donc en gros, je peux dire, ben, là, on est au solstice, ou là, on est à l'équinoxe.
Et ça, des fois, c'est hyper précis, tu vois, il y a des solstices où ça éclaire une statue dans un temple, en Égypte, à Abou Simbel d'ailleurs, ça éclaire la statue du pharaon, enfin, c'est hyper calculé, je trouve ça énorme, moi, de faire...
En fait, c'est calculé, mais c'est... On peut aussi prendre une année pour le faire. Enfin, si on sait qu'on veut faire rentrer le soleil par tel endroit, on observe au cours d'une année comment va se déplacer la tache de lumière. On voit qu'au moment du solstice, elle va être à tel endroit, au moment de l'équinoxe, etc. Et après, on marque. En fait, c'est comme ça qu'ils calibraient leur calendrier. Par exemple, vous prenez un calendrier solaire et vous mesurez la taille de l'ombre. En fait. Bien, le moment où l'ombre est la plus petite, c'est le solstice d'été. Le moment où l'ombre est la plus longue, c'est le solstice d'hiver. Donc ça servait en partie à ça, quoi. Ouais.
Et ouais, mais c'est quand même une sacrée prouesse technologique, en tout cas moi je trouve. Il y a aussi les pyramides d'Égypte qui sont aussi alignées sur les points cardinaux, ça aussi c'est pas mal. Les quatre angles forment le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc ça c'est pas mal, et même ils avaient, alors on en reparlera peut-être une autre fois, mais on va juste l'évoquer, sur les faces des pyramides, en fait ça fait... Sur les quatre faces des pyramides, ça fait des espèces de facettes, des petits renfoncements. Et ça, on pense que c'est là qu'ils avaient trouvé la précession des équinoxes.
Ok.
C'est-à-dire que le fait que l'orbite de la Terre, elle est un peu inclinée, mais qu'en même temps, elle tourne pas tout à fait droit, elle tourne un peu en...
En fait, la précession des équinoxes, on consacrera un point d'astronomie à ça, mais en fait, c'est l'idée que c'est lié au fait que l'axe de rotation de la Terre, il tourne sur lui-même, comme une toupie. Quand vous lancez une toupie, vous voyez bien que l'axe, en fait,
il décrit le sommet de
l'axe, il décrit un cercle, en fait. Et c'est ça, la précession des équinoxes. Donc, on ne va pas détailler plus, c'est la géométrie un petit peu fine, c'est clairement un sujet intéressant qu'on détaillera dans une prochaine émission.
Voilà, et donc ça m'amène à l'astroarchéologie. Alors, à ne pas confondre.
Enfin, juste au passage, par contre, je vois pas le lien entre le fait d'avoir des faces de pyramide un peu concaves et la précession des équinoxes.
Bah, apparemment, ça projette des ombres. D'accord. Au moment des précessions.
Parce que la précession des équinoxes, c'est un truc qu'on observe quand même très peu. C'est sur des milliers d'années en fait que ça bouge cet axe de rotation. Alors peut-être qu'eux, ils avaient quand même compris ça, mais ça demande des observations vraiment sur du temps, quoi.
Ok, bah ouais. En même temps, les Égyptiens, ils ont duré longtemps. Donc,
Peut-être, je sais pas.
Bon, à creuser, quoi.
Ouais.
Ok. Et donc, ouais, ça m'amène à l'astroarchéologie. Alors, c'est plus pour le délire. C'est ceux qui recherchent des preuves de passages extraterrestres dans les civilisations passées.
D'accord. Donc là, ça, c'est pas des gens du CNRS.
Non, ça, c'est à part. Ça, c'est les...
D'accord.
Les autres à part.
Ok.
Qui, eux, voilà, ils cherchent si dans les gravures ou dans les textes anciens.
Ah, mais il y a plein voilà. D'images qu'on peut voir, de dessins ou de gravures, ou rupestres, hein, même, dans les grottes préhistoriques, où on... Avec notre esprit de maintenant, on a l'impression de voir un vaisseau spatial ou un Roswell débarquer.
Ouais,
Alors après, est-ce que c'est vraiment ça? On n'en sait trop rien, mais il y a des choses qui sont un peu troublantes, ouais.
Ouais, c'est lié à l'ufologie, donc à l'étude des extraterrestres. Mmh. Voilà, bon, je ne vais pas détailler plus, mais... Okay. Si, je vais quand même juste dire que les pyramides, encore elles, tu vois, ça fait trois grosses pyramides, les pyramides d'Égypte. Elles sont peut-être en corrélation avec la ceinture d'Orion. Tu vois, ces trois étoiles de la ceinture d'Orion, mm-hmm. Elles correspondraient aux trois pyramides
de Gizeh.
Voilà, enfin, y a plein de choses à aller approfondir.
Voilà, après,
à
c'est
tout ça.
Clair, ouais, c'est un domaine où on peut commencer à broder pas mal de choses.
Alors, j'ai lui mis un truc, c'est dur de.
Mais ouais. On peut broder pas mal de choses.
Ouais.
En tout cas, ces mégalithes, ils existent, on peut les voir. Ils avaient clairement une vocation astronomique, ils avaient aussi clairement une vocation spirituelle, puisque de toute façon, c'était les prêtres qui faisaient de l'astronomie. Ouais. Donc tout ça est lié, on l'a déjà dit, astronomie, astrologie, ça a grandi ensemble.
Ouais.
Et d'ailleurs, il va être temps, je pense, de démarrer dans les prochaines émissions à quelques discussions sur l'astrologie, ça mérite quand même.
Ouais, pour finir, au final, c'est comme on disait, c'est peut-être sûrement des calendriers pour faire les semis, pour les récoltes,
bah oui.
pour organiser, prévoir,
pour les fêtes,
avoir une échelle de temps.
C'est le calendrier de...
Pour anticiper, pour l'agriculture, pour la société, enfin
oui.
Voilà, c'est aussi ça.
Oui.
S'il y a une dimension métaphysique. Voilà. Et donc, pour finir, comme tu disais, t'es grec... À l'époque, il n'y avait pas toute la technologie qu'on a maintenant. Et les gens, ils étaient quand même, à mon avis, plus liés à la nature, au ciel.
Sure.
Ils avaient plus le temps de faire des observations fines et précises comme ça.
Mm-hmm.
Et voilà, c'est intéressant de voir comment ils faisaient pour mettre en place des choses incroyables que maintenant, on n'explique toujours pas. Donc,
ok.
Voilà.
Eh bien, écoute, merci Pierrick pour tout ça. On a hâte que tu redéveloppes un petit peu ce thème des mégalithes dans la suite des émissions de l'Étoile Polaire sur RDWA. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Et on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.
Allez, à la semaine prochaine.